Salut à toi et bienvenue sur cet épisode, ce premier épisode bonus qui vient pour toi parce que tu es abonné à ma newsletter. Avant de dire quoi que ce soit d'autre, j'ai déjà envie de te remercier parce que tu m'accordes ta confiance et ton adresse mail pour te partager chaque semaine ce que je peux t'apporter pour développer ton activité de freelance et te poser les bonnes questions au bon moment. Donc déjà pour ça, merci pour cette confiance. J'ai beaucoup de gratitude pour ça et je m'engage à continuer de t'apporter des choses pour que tu aies envie de continuer à suivre cette belle aventure dans laquelle je me lance avec toi et dans laquelle on se lance sur le chemin du freelance. Aussi, si jamais tu es en train d'écouter ça et que tu n'as pas encore écouté l'épisode 17 avec Marie-Laure Cruchy, qui est l'épisode auquel cet épisode-là, ce bonus ici, se rapporte, je t'invite à mettre pause ici et aller écouter cet épisode et cet échange avec Marie-Laure. Même si tu te dis que le sujet ne te parle pas forcément, c'est important parce que tout ce que je vais partager ici, en gros, c'est mes analyses, mes rebondissements et toutes les pensées qui me viennent suite à cette discussion avec Marie-Laure. Donc pour que tu aies le contexte global, c'est important que tu ailles écouter, cette discussion-là. Et encore une fois, même si le sujet du doute, qui est le titre de l'épisode, a priori ne te parle pas, vas-y, parce qu'on va voir dans cet épisode ensuite, là, tout ce que je trouve intéressant sur ça, sur la relation avec le doute et notamment avec le mindset qui vient derrière, mais aussi d'autres choses sur ce que nous a partagé Marie-Laure sur la visibilité pour les profils créatifs notamment, mais ça s'applique à tout le monde et je vais beaucoup parler de ça dans cet épisode, et aussi comment voir les compétences qu'on a, non pas comme une finalité pour faire un seul service ou un seul produit ou un seul type de mission, mais comme quelque chose de multipotentiel qu'on peut exploiter de plein de différentes manières et comme ça développer le reste de son activité. Donc mets pause maintenant si t'as pas écouté l'épisode 17 avec Marie-Laure et va l'écouter. Si tu as écouté l'épisode avec Marie-Laure, bienvenue, tu es au bon endroit, parce qu'ici, mon enjeu avec cet épisode de bonus, c'est d'aller encore plus loin et de te permettre de vraiment passer à l'action. Continuer de te questionner sur ces échanges-là, de prendre un peu plus de recul et être dans l'analyse de qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ta vie de freelance et comment tu passes à l'action sur ces notions. Il y a trois points de la discussion sur lesquels je vais revenir dans cet épisode. Je ne peux pas encore te dire combien de temps ça va durer parce que je le fais un peu en freestyle, parce que c'est aussi là où je fais des connexions et on va voir ce qui sort, mais il y a trois points clés sur lesquels j'ai envie de revenir. Le premier point, c'est le lien entre le sujet qu'on a eu, qui est beaucoup ressorti dans l'épisode avec Marie-Laure, qui est le doute, et qu'est-ce qu'on en fait de ce doute, qu'est-ce qu'on en fait de quand on doute sur son activité, quand on doute sur sa légitimité, pour un profil créatif comme elle en illustration, quand on doute sur son univers et sur son travail, qu'est-ce qu'on fait, comment on joue avec ça. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est comment voir et décortiquer la visibilité. Marie-Laure, c'est quelqu'un qui est très visible dans le monde de l'illustration. Et tu l'as sûrement vu dans l'épisode, j'ai essayé de lui poser des questions pour décortiquer d'où lui vient cette visibilité, c'est quoi les premières étapes et comment elle en est arrivée à ce point. Donc je vais te parler de comment tu peux faire ça pour toi aussi dans ce deuxième point. Et le troisième point, c'est de voir tes compétences comme un pool de choses que tu peux exploiter, un peu comme des outils, et pas une finalité sur une mission. Donc par exemple, si tu as des compétences en graphisme et que tu as toujours fait de l'identité visuelle, ne pas te dire « bon ben voilà, moi je fais que de l'identité visuelle », mais plutôt voir ces compétences-là comme des choses que tu peux exploiter sous plein de différents angles et différents potentiels. Et on va parler de ça aussi dans le troisième point, parce que Marie-Laure en a un peu parlé aussi. Sur le premier point donc, le doute et le mindset. Comme tu l'as vu dans l'épisode, Marie-Laure, elle est en plein questionnement sur son univers, en plein doute sur la direction qu'elle va prendre avec son activité. Et d'ailleurs, c'est marrant, elle le disait, plus elle avance, plus elle progresse, plus elle est visible, donc plus elle a aussi de missions qui rentrent et de demandes de ses clients, mais plus elle doute. Et parce que la réflexion qu'elle apportait, c'est qu'elle avait l'impression d'avoir fait le tour de quelque chose et qu'elle ne savait plus si son travail, le travail qu'elle faisait aujourd'hui, était née de son envie, de sa direction qu'elle voulait prendre, ou juste d'une série de missions qu'on lui proposait, et que c'était ça qui dictait sa direction. Et du coup, elle était en pleine phase de questionnement et de doute sur qui je suis en tant que créatif, qui je suis en tant qu'artiste, parce que quelque part elle est artiste, qu'est-ce que c'est que je produis, quel impact ça a ce que je produis, quel impact j'ai envie que ça ait, c'est quoi le message que j'ai envie de partager avec ça, et c'est quoi le processus que j'ai envie de mettre en avant. Donc en gros, elle se questionne sur les prochaines étapes de son activité et dans quel axe créatif elle part. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire que bon, voilà, c'est le freelancing qui apporte ce doute, parce qu'au final, quand on est freelance, on a la possibilité de construire tout et n'importe quoi comme activité. On pourrait se dire, ben voilà, là je suis à un point A et on peut partir dans n'importe quel sens, parce que ben, c'est à nous de construire et de modeler notre activité comme on le veut, et que ce doute viendrait de là. Mais au final, pas du tout. Quand on regarde un peu dans le passé, il y a plein de profils artistiques qui ont déjà eu cette période de doute, qui l'ont transformé. Et ce qui est intéressant, justement, on va voir la transformation. Pour ceux qui suivent, qui connaissent Picasso, j'imagine que tout le monde connaît Picasso, mais l'histoire de Picasso, à part le cubisme, c'est que c'est un artiste qui, à chaque fois qu'il sentait qu'il maîtrisait un médium ou un outil, allait changer complètement de médium ou d'outil, et il passait à autre chose. Et parce que, justement, il avait cette impression, quand on voit ses expos ou qu'on lit un peu sur lui, qu'il avait l'impression d'avoir maîtrisé ses trucs, et qu'il fallait passer à autre chose pour redevenir un novice dans quelque chose et reprogresser et changer d'univers et changer de qu'est-ce que je vais raconter, etc. Et que c'était seulement comme ça qu'il sentait qu'il avançait. Et du coup, forcément, ben ça doit induire aussi un moment de doute. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que le doute en soi n'est pas un problème, en fait. Marie-Laure, quand elle dit qu'elle doute, c'est pas un problème, c'est pas une faiblesse. Là où il y a un risque, par contre, c'est ce doute-là, qu'est-ce que j'en fais derrière? Est-ce que ça me paralyse et ça fait que j'arrive plus à produire, j'arrive plus à travailler, j'arrive plus à avoir confiance en moi, je me compare aux autres, et donc ça m'empêche d'avancer parce que je doute tellement que je sais plus qui je suis et qu'est-ce que je fais? Ou est-ce que ce doute, je le transforme en un moteur? C'était le titre de l'épisode avec Marie-Laure, le doute comme moteur créatif. Est-ce que je le transforme en quelque chose de bénéfique qui me pousse à me rapprocher davantage de qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au travers de mon activité, où j'ai envie d'aller, quelle direction j'ai envie de prendre, où est-ce que je mets les caps? Ça, c'était le sujet de l'épisode 16, je t'invite à l'écouter aussi, mais que le doute, en fait, soit comme un indicateur, une espèce de voyant de couleur qui s'allumerait sur un tableau de bord, qui te dit « Eh oh, regarde !» T'es en train de... Il y a du doute ici. Il est temps de se poser des questions pour potentiellement réaligner ton activité ou continuer dans la même vague si tu sens que c'est dans la même direction que t'as envie d'aller. Et c'est vraiment ça que je trouve intéressant. Et ça, c'est une question d'état d'esprit et de mindset, de se dire, en fait, le doute, quoi qu'il arrive, il va être présent. Il y a forcément un moment dans notre activité de freelance où on va se mettre à douter. Alors au début, ça va être, est-ce que je vais être capable de trouver des clients? Est-ce que je vais être capable de générer assez d'argent? Puis plus tard, ça va peut-être être, ah ouais, ça c'est un gros projet quand même qu'on vient de me confier. Est-ce que je vais être capable de délivrer la valeur? Après ça, ça pourrait être, ok, là je sais pas exactement si ce que je construis depuis les 5 dernières années, c'est vraiment l'activité qui me ressemble. Et en même temps, je sais pas trop, est-ce que je change de direction ou pas, donc on doute sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et de construire. Enfin bref, ces phases de doute, au final, il faut les voir comme inévitables. Et si vous n'en avez jamais, ou s'il y a des personnes qui n'en ont pas, j'ai envie de dire tant mieux. Et en même temps, est-ce que vous êtes vraiment humain? Bref, tout ça pour dire que ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est pas le doute en soi, c'est qu'est-ce que vous en faites de ce doute? Comment vous jouez avec et comment vous le transformez? J'ai envie de vous partager une petite histoire. Je ne sais plus exactement d'où elle me vient, mais parce que je suis beaucoup de personnes qui racontent ce genre de choses, qui parlent du mindset, qui parlent de son importance. Donc c'est sûrement un des coachs que je suis qui raconte cette histoire. Mais en gros, c'est l'histoire de deux personnes plutôt connues, je me souviens encore une fois pas lesquelles, parce que ça fait un moment que je me suis pas updaté sur ça, mais deux personnes plutôt connues, qui font tous les deux de la scène. On va dire qu'il y en a un qui est que les deux sont chanteurs, et qui, juste avant de monter sur scène, il y a une de ces personnes qui commence à avoir les mains moites, à avoir les bras qui se resserrent, à avoir des papillons dans le ventre, le torse qui commence à devenir... un peu douloureux, et elle a mal à la gorge, et elle a du mal à avaler, elle commence à transpirer, à avoir les mains moites. Et cette personne, quand ça arrive, elle se dit « Oh mon Dieu, je suis en train de stresser, je peux pas monter sur scène, faut que je me calme, je suis pas prêt, ça va être trop dur, je vais pas réussir à chanter, à faire mon speech. Et il y a une autre personne qui, juste avant de monter sur scène, elle raconte toujours la même chose, elle dit « Mais moi, avant de monter sur scène, j'ai les mains qui se crispent, j'ai les bras qui deviennent un peu tendus, j'ai le torse, je sens une petite douleur, j'ai des papillons dans le ventre, je commence à transpirer, j'ai les mains moites, et quand ça arrive, je sais que je suis prêt. Et c'est le moment de monter sur scène et faire ce que je fais le mieux. » Et ce que j'adore dans cette histoire, c'est en fait, ces deux personnes, elles ont la même réaction physiologique, c'est-à-dire leur corps réagit de la même manière, ils transpirent, ils ont les mains moites, elles commencent à trembler, etc. Mais que l'histoire qu'elles se racontent sur ces réactions physiologiques n'est pas du tout la même. Il y en a une qui voit ça comme un signe de faiblesse, et qui du coup remet tout en question, doit attendre, doit se calmer, doit prendre du temps, et donc sortir sur scène potentiellement 20 ou 30 minutes plus tard. Et l'autre qui prend ça comme un signe de préparation et qui voit dans ces signes physiologiques « je suis prêt à y aller » et que c'est quelque chose de positif, alors que c'est les mêmes réactions physiologiques. Et au final, ça montre que, bah, comme avec le doute, ce qui est important, c'est pas le doute en lui-même, c'est pas ça le problème. Ce qui est important, c'est quelle histoire tu te racontes sur le doute. Et quand tu doutes, est-ce que tu te racontes que c'est parce que t'es pas assez fort, pas assez compétent, que tu n'es pas prêt, que tu n'as pas su bien faire telle ou telle chose dans le passé? Ou est-ce que tu te dis « Ah, je doute, c'est signe que je suis sur la bonne voie, que j'avance dans la bonne direction, que c'est le moment de me poser des grandes questions super importantes pour vraiment construire une activité qui me ressemble, et c'est une croisée des chemins, et donc c'est une opportunité que je sois en train de douter. » Et ce travail d'état d'esprit et de mindset-là, c'est un muscle, en fait. C'est quelque chose qu'il faut développer et sentir de plus en plus ces opportunités-là. Et moi, personnellement, j'observe, je ne suis pas la personne qui médite le plus au monde, mais j'observe que quand je médite et que j'ai une pratique régulière, j'arrive à m'observer de plus en plus, à me dire « Ah tiens, là, tu es en train de te raconter une histoire qui n'est pas vraiment à ton service. » Après, là, je pourrais partir dans les sujets des croyances limitantes et tout ça, mais je ne vais pas le faire. Parce que c'est un sujet à part entière qui pourrait prendre tout un épisode bonus. Et il y a plein de coachs et de gens qui en parlent très très bien. Mais ce sujet du mindset, il est très intéressant. Donc, prenez un pas de recul et posez-vous la question de quand je doute sur mon activité, quelle histoire je me raconte basée sur ce doute? Est-ce que je me raconte que je suis pas assez fort? Ou est-ce que je me raconte que c'est une bonne chose ce doute parce qu'il m'aligne encore plus et il me permet de me poser des bonnes questions? Essayez de prendre un peu de conscience de ça, parce que c'est ce travail de mindset-là qui va vraiment déterminer la direction que vous allez prendre avec votre activité, votre capacité à dépasser les challenges, à vraiment construire quelque chose qui vous ressemble. Et dans cette notion-là, ce que je veux que vous reteniez sur ça, c'est que, en fait, c'est pas les faits concrets d'une situation qui déterminent la qualité de votre vie ou de votre activité, mais c'est le regard que vous portez là-dessus. Vous pouvez décider que le doute est quelque chose qui est mauvais, ou vous pouvez décider que le doute, c'est quelque chose qui est à votre service. Et c'est ça la grande différence, et c'est cette différence entre les gens qui va faire une énorme différence dans comment vous construisez votre activité et quelle direction vous prenez. Donc ça, gardez-le en tête, et ça, c'était le premier point sur lequel je voulais revenir, cette différence entre bah, le doute, c'est pas un problème, c'est ce qu'on en fait, en fait. Donc qu'est-ce que vous allez faire du fait que vous doutez? Parce que, quoi qu'il arrive, vous allez douter. Le second point sur lequel je voulais revenir suite à cette discussion avec Marie-Laure, c'est le sujet de la visibilité. On en a beaucoup parlé dans l'épisode, et c'est notamment vrai sur les profils créatifs, on leur demande souvent « Tiens, est-ce que tu pourrais faire ça gratuitement ?» D'ailleurs, même d'autres profils, hein, mais « Est-ce que tu peux faire ça gratuitement ? Ça va te faire de la pub, ça va te faire de la visibilité, ça va t'aider à te développer et à être plus vu. » Et avec Marie-Laure, dans l'épisode, on se posait la question de bah, comment tu fais pour faire l'arbitrage en te demandant est-ce que je prends cette mission-là, est-ce que je prends cette proposition qui est somme toute gratuite mais qui potentiellement va pouvoir me faire de la pub, ou est-ce que je le prends pas parce que j'ai une attitude religieuse à me conformer tout le temps à « il faut que je sois bien payé, il faut que j'ai une rémunération juste pour le travail fourni » et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est un arbitrage complexe à faire et qui n'est pas toujours évident de choisir. Et on en a parlé avec Marie-Laure un peu après l'enregistrement, donc on parlait de comment est-ce qu'on pouvait faire et j'ai un outil à vous proposer dans cet épisode qui peut vous aider à le faire. Mais avant de vous parler de cet outil, j'ai envie de vous parler plutôt de la méthode que je pense qu'il faut qu'on ait tous dans ces questionnements de visibilité, notamment quand on a une activité de freelance qui commence à avoir un peu de traction, qu'on a des clients qui rentrent, de plus en plus de missions. Et parfois, on ne sait pas forcément d'où ça vient. On ne sait pas forcément, ah tiens, comment cette personne m'a trouvé, m'a contacté, d'où est-ce que ça vient, cette recommandation-là, comment on est visible. En fait, il y a beaucoup d'indépendants et beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'est-ce qui leur rapporte des clients. Donc, ils font plein de petites actions, des posts sur les réseaux sociaux, ils parlent avec des gens en conférence, en événements, ils sont sur des plateformes. Et il y a pas mal de fois où on ne sait pas vraiment d'où viennent nos clients, d'où vient notre visibilité, comment est-ce qu'on l'a eue. Et en écoutant l'épisode, tu t'es sûrement rendu compte du coup que bah, je questionnais un peu Marie-Laure là-dessus. Parce que bah, je la rencontre à une conférence au laptop, en fouillant un peu, j'ai trouvé un live qu'elle a eu avec Adobe sur YouTube, et je lui demande bah, comment ils t'ont découvert. Et elle dit, bah, en gros, c'est la visibilité que j'ai eue sur Behance grâce à mon projet Cabins avec ta chaîne qui m'a eu beaucoup de visibilité. Et là, je lui dis, ah bah trop bien, comment ta chaîne, ils t'ont trouvé? Et là, elle dit, bah justement, ta chaîne, je sais plus ce qu'elle dit dans l'épisode, mais ils l'ont trouvé via tel article de presse ou tel autre projet. Ah trop bien, et ce projet-là, comment tu l'as eu? Et revenir à la source, en fait. C'est quoi la première action, un peu comme un effet domino qui déclenche tout le reste? Et ça, c'est vraiment un questionnement que je vous invite à avoir. C'est un peu comme le petit pousset qui laisse, en fonction des versions de l'histoire, c'est des miettes de pain ou des galets ou des cailloux, mais qui laisse une trace derrière lui et un fil. Et ce que je vous invite à faire, c'est à chaque fois que vous avez une opportunité, une mission qu'on vous présente ou un client, c'est de remonter le fil et de vous dire, et vous pouvez même lui poser la question, c'est « comment tu m'as découvert ?» Et ensuite, quand il va vous expliquer, de lui dire « Ah, mais trop bien, si c'est une personne qui vous a recommandé à elle, ben, comment cette personne-là vous a découvert ?» Et comment celle-ci vous a recommandé ?» Et « Ah tiens, si ça vient de tel article que vous avez posté quelque part, ah tiens, mais qu'est-ce qui m'a aidé à rentrer en contact avec cette personne pour publier un article ici ?» Ou « Comment j'ai fait pour créer tel type de contenu ?» et remonter à la source. Et c'est quoi la première action qui a déclenché le reste ? Et ce qui va se passer en faisant ça, en fait, c'est que bah, vous aurez un schéma à suivre. Ce ne sera pas simplement oh, « bah, tiens, je fais des actions au hasard pour générer de la visibilité ». Vous aurez de plus en plus un plan de comment je passe d'une action de base par un fil d'actions complémentaires et successives pour atteindre une mission avec un client. En partant du coup de la fin, quand vous avez trouvé la fin, et en remontant tout le fil jusqu'au départ. Donc pour Marie-Laure, par exemple, ça a été, bah, elle a commencé à travailler pour les Inroc, puis elle a eu des opportunités dans des plus grands ouvrages de presse, parfois des opportunités gratuites qu'elle a saisies pour développer sa visibilité, puis elle a eu des plus grosses commandes dans la presse en payant, puis elle a été remarquée par Ta Chaîne, l'éditeur, pour la grosse commande de livres, puis elle a eu une visibilité incroyable sur Behance grâce à ce projet, puis elle a été invitée à des conférences, puis elle a fait les lives YouTube, etc., etc. Et du coup, en fait, pour vous simplifier un peu avec une métaphore, ce regard-là, c'est de voir sa visibilité un peu comme une équation. Si vous vous souvenez de votre vie de collégien ou de lycéen, c'était surtout au lycée qu'on faisait des équations, mais... Enfin, il me semble, c'est loin pour moi aussi, mais de vous demander, ok, une équation, en fait, il y a plein d'étapes successives jusqu'à trouver la réponse. On commence à un truc qui semble complexe, on ne comprend pas, on ne sait pas exactement par quelle boule prendre, et on arrive à la fin à quelque chose de super logique. Et l'idée, c'est de voir la visibilité comme ça, c'est-à-dire on va tester plusieurs choses, un peu comme des hypothèses scientifiques, on teste une méthode, et on voit ce qui se passe, puis on passe à l'étape d'après, puis à l'étape d'après, puis à l'étape d'après, jusqu'à trouver la solution. Et je vous invite à vraiment avoir ce regard-là sur votre marketing au sens large, mais surtout sur votre visibilité. C'est-à-dire, ok, imaginons que vous testez d'aller à un événement et de parler à 5 personnes. voyez ça a quel impact. Puis vous testez de faire une publication dans un blog ou si vous êtes plutôt un profil créatif, de faire une publication gratuite dans un magazine ou quelque chose comme ça. Voyez quel impact ça a. Et à chaque fois que vous avez des gens qui vous présentent des opportunités d'émission, demandez-leur d'où vous venez, comment vous m'avez trouvé, commencez à vous poser la question sur le fil logique de comment cette personne est venue jusqu'à vous et vous êtes allé jusqu'à elle. Et comme ça, vous allez avoir un plan qui se dresse de plus en plus. Et donc ça, c'est une manière de voir okay, quelles sont les bonnes opportunités et les mauvaises opportunités par l'expérience d'en faire plusieurs et de voir quelle est la direction à prendre. Et la seconde chose, c'est donc l'outil dont on parlait avec Marie-Laure. Elle a appelé ça, quand elle m'en a parlé, l'outil des 3 P. Et en fait, c'est de se dire, donc les 3 P sont payant, portfolio et plaisir. Et donc, à chaque fois qu'on vous présente une opportunité, il faut cocher 2 des 3 cases au minimum. C'est-à-dire, est-ce que c'est une opportunité où je suis rémunéré à la juste valeur, ou enfin en fonction de votre définition que vous avez envie de donner à rémunérer, parce que peut-être que 50 euros en fonction de la prestation, c'est pas suffisamment pour cocher la case rémunérée. Mais du coup, est-ce que vous êtes rémunéré? Oui, non, on coche la case payant. Est-ce que c'est un bon projet pour votre portfolio? Votre portfolio, les profils créatifs, vous me comprendrez directement, mais d'autres profils comme des consultants ou des développeurs, vous n'allez peut-être pas vous connecter avec la notion de portfolio, donc je vais changer ça. C'est en gros les projets sexy qui ont le potentiel d'attirer des clients que vous pourrez montrer ou en parler, c'est-à-dire des études de cas en fait. Et si le projet qu'on vous propose ou l'opportunité qu'on vous propose est vraiment intéressante pour étoffer et développer vos études de cas et votre portfolio, mais là, oui, non, et vous pouvez cocher la case portfolio. Et la troisième, c'est plaisir. Est-ce que l'opportunité qu'on vous présente, ou le projet qu'on vous présente, est-ce que c'est un projet où vous sentez vous allez prendre du plaisir à le faire, et ça va être cool pour vous, peu importe que vous soyez payé ou non. Et là, oui, non, vous cochez la case. Et donc, quand on vous présente une opportunité, bah, ça, c'est un bon filtre de se dire est-ce que c'est payant ? Non, c'est pas payant. Par contre, c'est une super opportunité pour mon portfolio. Si ça se passe bien, j'ai une étude de cas vraiment stylée à montrer et vraiment qualitative à montrer à mes futurs prospects. Et en plus, c'est un projet sur lequel je vais prendre énormément de plaisir. Donc, ok, oui, je le prends. Dans un autre cas, ça pourrait être, oui, c'est payant, oui, c'est très bon pour mon portfolio, par contre, je sens que je vais m'ennuyer un peu, mais j'en ai coché 2, j'y vais. Après, bien sûr, l'idée, c'est aussi d'avoir un autre pas de recul pour vous et de vous dire, ok, mais des fois, même si en cochant 2 cases, vous n'allez pas dire oui, systématiquement. Un exemple, c'est si vous êtes vraiment avec un besoin d'argent ou de cash fort sur un moment donné parce que ça fait un moment que vous n'avez pas rentré de trésorerie et là vous avez un gros besoin de trésorerie, c'est peut-être pas le bon moment de prendre une mission simplement plaisir portfolio parce que vous avez besoin d'argent et donc ça prend de la place pour une mission potentiellement rémunératrice. Donc il faut aussi avoir ce cheminement-là en fonction de quels sont vos besoins prioritaires du moment et utiliser ça comme un autre filtre. Mais je ne rentrerai pas là-dedans, parce que ce n'était pas un sujet du podcast, enfin de l'épisode avec Marie-Laure. Mais cet outil des 3 P, donc je les répète, payant, portfolio et plaisir, et cocher au moins deux des 3 cases, et si vous n'en cochez qu'une, c'est que ce n'est pas la bonne opportunité pour vous, et donc, ou alors il faut négocier et revoir les choses. Voilà pour le deuxième point sur voir la visibilité un peu comme une science, comme une équation, et avoir des filtres pour prendre des bonnes décisions là-dessus. Et le troisième point que je voulais aborder, c'était un point sur vos compétences et qu'est-ce que vous faites de ces compétences. À un moment donné, Marie-Laure, elle parle du fait qu'elle a un savoir, elle a des choses qu'elle sait faire, c'est-à-dire de l'illustration, créer des univers, créer un ressenti par l'illustration, mais qu'elle fait plusieurs choses avec ça. Elle a développé différents formats dans différents domaines, ce qui lui permet d'étoffer son activité, d'avoir plusieurs cordes à son arc, entre guillemets, si je reprends cette expression-là. Donc, pour expliquer pour Marie-Laure, elle est illustratrice, donc elle a des missions qu'elle fait en illustration pour des agences de publicité, par exemple. Elle a des missions d'illustration qu'elle fait pour de la presse, donc c'est pas exactement la même approche, mais elle utilise les mêmes compétences pour ses missions différentes. de l'illustration pour la publicité, de l'illustration pour la presse, pour plutôt de l'éditorial du coup. Elle fait aussi de l'illustration pour ses projets de bouquins. Elle a sorti 4 bouquins qui sont des bouquins un peu à dispositif illustré. Et donc ça aussi, c'est une utilisation de ses compétences sur ce format-là qu'elle a choisi. Et aussi, elle a sa boutique en ligne où elle vend du coup de plus en plus d'illustrations qui sont en général des illustrations qu'elle fait pour le plaisir, qu'elle vend là-dessus. Et du coup, en gros, là, c'est une seule et même compétence qu'elle exploite de 4 manières différentes pour développer son activité. Et une autre manière de faire qu'elle pourrait développer, ce serait par exemple de la formation à l'illustration ou ce genre de choses, pour continuer de grandir et d'avoir plusieurs axes à son activité autour d'un pool de compétences qu'elle a et qu'elle développe. Et du coup, ce que je voulais t'apporter aussi dans cet épisode bonus, c'est cette réflexion-là, que tu te dises, j'ai un pool de compétences, j'ai un ensemble de compétences qui me sont propres, que j'ai développées avec le temps, sur lesquelles je me forme en continu. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu les exploites seulement d'une manière, sur un type de mission, une typologie de mission, sur un besoin pour tes clients. Mais que cet ensemble de compétences, tu pourrais l'utiliser d'autres manières. Et te demander, plutôt que de te dire, ben voilà, je fais tel métier et je fais tel type de mission, voir tes compétences plutôt comme de la matière première que tu peux tirer et transformer de différentes manières. Et te dire, juste pour un instant, le temps de cet épisode, sans forcément passer à l'action derrière, surtout si tu es au début de ton activité, c'est pas le bon moment, et je t'invite à écouter mon épisode 15 sur le chemin du freelance pour te poser les bonnes questions au bon moment. Mais juste pour les prochaines minutes, et un temps après l'épisode, te dire, ok, mes compétences sont celles-ci, tu peux les lister par exemple, et de te demander, si je les considère comme de la matière première, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que je ne fais pas encore avec ces compétences? Et de brainstormer un peu là-dessus. Je vais donner un autre exemple, si aujourd'hui tes compétences c'est de la rédaction, et que tu aimes beaucoup écrire, et que tu fais aujourd'hui ça sous la forme de création de contenu pour des marques. Mais peut-être que tu pourrais faire de la création de contenu déjà pour toi, pour ta visibilité. Écrire des articles sur un sujet qui te passionne, et créer un site ou un blog sur ce sujet, et peut-être qu'à terme tu pourras monétiser ça parce que tu auras des gens qui te suivent, et développer cette partie-là. Peut-être que tu pourrais mettre ces compétences de rédaction dans le fait d'écrire un bouquin, de fiction ou de non-fiction. Peut-être que tu pourrais utiliser ces compétences de rédaction pour faire de la formation aussi, pour d'autres personnes qui voudraient devenir rédacteurs ou des personnes qui voudraient apprendre à prendre en compte les bonnes questions pour la rédaction. Et peut-être que c'est des choses auxquelles t'as pas pensé aujourd'hui. Peut-être qu'un jour tu pourras les packager sous la forme d'une formation. Enfin voilà, en fonction du développement de ton activité aussi. Donc ce que je voudrais que tu retiennes de ce troisième point, c'est de te dire mes compétences, elles ne sont pas figées dans une manière de les explorer et de les exploiter. Et donc, regarde tes compétences comme de la matière première malléable, une sorte de d'argile que tu pourrais transformer, changer avec le temps et utiliser pour différents types de livrables et différentes choses que tu pourrais faire avec ça. Et pose-toi la question de, avec ces compétences que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Et voir si ça t'inspire, voir si ça te parle, et potentiellement le tester par la suite pour développer ton activité. Donc voilà, pour conclure sur cet épisode, qui dure du coup déjà une demi-heure, il y avait 3 points, et je vais essayer de les reclarifier pour faire un petit sommaire. Le premier point, c'est le lien entre le doute et le mindset. Le doute en soi n'est pas un problème, c'est ce que tu fais de ce doute qui est important. Quelle est l'histoire que tu te racontes quand tu doutes? Parce que, quoi qu'il arrive, le doute, il sera forcément là. Donc raconte-toi une histoire qui soit à ton service. Le deuxième point, c'est de voir le marketing et la recherche de visibilité un peu comme une science, comme une équation, et de remonter le fil logique de quand un client te trouve, comprendre toutes les étapes successives qui lui ont permis de te trouver, et de refaire ça de plus en plus pour avoir de la compréhension sur quel est le plan que tu vas suivre et les étapes successives que tu vas suivre et que tu vas pouvoir mettre en place de manière récurrente pour générer davantage de clients comme celui que tu as envie d'attirer. Et là, l'intérêt, c'est de faire ça sur des clients où tu t'éclates, pas sur des mauvais clients, sur des clients où tu prends du plaisir et qui cochent toutes tes cases. Et du coup, avec l'outil des 3 P aussi, payant, plaisir, portfolio, pour savoir quelles opportunités je saisis ou non, pour commencer sur les premières étapes. Et le troisième point, c'est le point sur tes compétences, donc voir tes compétences comme de la matière première à exploiter et à utiliser de différentes manières pour développer ton activité et pas rester cantonné à une seule manière de faire ce que tu fais et à un seul type de mission auquel tu réponds avec un seul type de client, et de voir ça comme quelque chose de mouvant sur comment est-ce que tu développes ton activité. Voilà, j'espère que cet épisode de bonus t'a plu. J'ai envie d'en faire d'autres et j'ai surtout envie que ce soit à ton service et que ça te permette de prendre un peu de recul et de passer à l'action là-dessus. Donc ce que je te demanderai de faire en réponse à cet épisode, c'est de m'envoyer un mail pour me donner ton avis. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est quoi la pépite que t'en ressors, le truc qui fera vraiment la différence pour toi? De l'écrire, ça te permettra aussi de l'ancrer et d'être sûr de t'en souvenir et pas avoir écouté ces 30 minutes d'épisode en te disant « Ah tiens, c'est intéressant » et en l'oubliant dès demain. Donc prends le temps, prends juste 2 minutes, envoie-moi un mail à hello@thomasburbidge.com et dis-moi qu'est-ce que tu retiens de cet épisode bonus, est-ce que t'en veux d'autres, comment ça te permet de... quelle action tu vas poser par rapport à ça pour avancer. J'ai vraiment envie de savoir et qu'on interagisse ensemble et que je puisse t'apporter encore plus de choses comme ça dans le futur pour vraiment t'accompagner et t'aider sur ces sujets-là. Voilà, je te souhaite une excellente semaine. Encore une fois, merci pour ta confiance et je te dis à tout vite sur Young, Wild and Freelance. Bye.